Bienvenue à vous qui venez d'entrer dans la deuxième partie de C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Si vous avez manqué la première partie, nous avons parlé actu, du live d'Arthur Elie et du podcast Qui a tué Maurice. Allez l'écouter si vous l'avez manqué.
Et pour cette deuxième partie, nous continuons avec la littérature, la sculpture et le cinéma. Et nous sommes toujours avec Ryan, Jeanne, Garance, Hugo, Violette et Marilou. C'est parti.
Bande dessinée,
jeux vidéo et multimédia.
Cinéma.
C'est dans l'art.
C'est dans l'art, sur Radio Campus Paris.
Continuons notre heure culturelle avec une sortie extérieure. Ryan, tu nous emmènes au jardin du Luxembourg, où trône la statue d'une figure majeure de la politique française, pourtant tombée dans l'oubli.
Saviez-vous que la France a failli être dirigée par un président de la République noir ? Je ne plaisante pas, l'occasion historique s'est même présentée deux fois. Mais ça, ça ne vous a pas échappé, ça ne s'est jamais produit finalement. Plus de 30 ans après sa mort, force est de constater que l'homme a été quelque peu effacé de nos mémoires. En particulier dans la France hexagonale, depuis 2011, son buste est à deux pas du Sénat, un lieu qui a beaucoup de sens, vous allez le voir, on va y revenir. Mais avant, qui est cet homme ? Eh bien, c'est Gaston Monnerville, avocat, résistant, petit-fils d'esclaves originaire de Guyane, engagé contre le bagne, le racisme et l'antisémitisme, passé par toutes les étapes ou presque, député, maire, conseiller général, sénateur, membre du gouvernement et du conseil constitutionnel, mais surtout président du Sénat pendant 22 ans, c'est-à-dire juste le deuxième personnage de l'État après le président de la République, rien que ça.
C'est en tant que tel qu'il a failli passer de numéro 2 à numéro 1.
La première fois en 1953, on est encore sous la 4ème République, les parlementaires se réunissent pour élire le prochain président. À l'époque, il n'est pas élu par les électeurs, mais il a surtout un rôle honorifique, pas beaucoup de pouvoir, les tours s'enchaînent, aucun nom n'émerge. Selon la tradition à cette époque, en cas de scrutin indécis, on élit le président de la Haute Assemblée, qui est, c'est bien Gaston Monnerville, mais les parlementaires lui préfèrent René Coty. Monnerville ressortira très affecté par cet épisode. Selon ses biographes, ses pairs ne supportaient pas qu'un homme noir puisse devenir président de la République.
Et 15 ans plus tard, la 5ème République est passée par là, et avec elle, De Gaulle.
Je passe outre l'attentat du petit Clamart qui a failli tuer De Gaulle, direction 1968. Le paysage politique a alors beaucoup bougé. Gaston Monnerville est toujours là, à la tête du Sénat, en conflit avec De Gaulle. Le radical de gauche honnit la présidentialisation du régime et l'affaiblissement du Parlement qui va avec. Son opposition au général lui vaudra une interdiction d'antenne à l'époque de l'ORTF sous contrôle du gouvernement. Gouvernement qui veut réformer le Sénat, lui faire perdre son caractère législatif, le tout par référendum. C'est non pour Monnerville qui quitte la présidence de l'institution en octobre 68 pour mieux la défendre. On connaît la suite, 6 mois plus tard, les Français aussi disent non à De Gaulle. Il démissionne, il est remplacé par le président du Sénat, Alain Poher. Si l'anti-De Gaulle était resté patron de la Chambre haute, il lui aurait succédé. Pour un mois et demi d'intérim, certes, mais quand même.
Et alors cette statue, qu'est-ce que tu nous en dis ?
Alors oui, parce que c'est quand même le sujet de la chronique. Un buste en bronze inauguré en 2011, 20 ans après sa mort. Une sculpture longiligne et verte sur laquelle on lit ce proverbe qui résonne comme un credo. « Fais ce que tu dois ». Une œuvre signée Jacques Canonici, artiste à la double casquette de sculpteur et de peintre, tout près du jardin du Luxembourg et du Sénat, sur lequel il trône sur l'esplanade qui porte son nom, Gaston Monnerville. Mais ne nous y trompons pas, malgré l'hommage, l'homme d'État a largement disparu de nos mémoires. Lui qui fut pourtant central, qui a fait carrière sous 3 républiques différentes, de la 3ème à la très gaulienne 5ème république, face à la statue, un jardin, un palais et une grande histoire.
Un patient saut dans le temps à voir dans le 6ème arrondissement de Paris. Merci Ryan. Passons aux réactions. On a évoqué la statue d'un homme qui est trop méconnu encore du grand public. Selon vous, est-ce qu'il faudrait que les statues donnent plus de représentativité ? Est-ce qu'on doit avoir plus de personnalités différenciantes dans nos rues, Jeanne ?
Plus de personnalités, je ne sais pas, mais peut-être déjà qu'on puisse savoir qui sont ces gens qu'on croise dans la rue. Typiquement, je pense que je suis déjà passée devant cette statue sans y faire attention. Ça rejoint un peu ce qu'on disait la dernière fois sur les statues dans l'espace public, mais sans du tout savoir qui est cette personne. Et je ne sais pas s'il y a un petit cartel, un petit truc qui explique, qui donne du contexte à ces statues, mais j'ai souvent l'impression que c'est comme ça, des bustes, des portraits qu'on voit comme ça dans la rue sans savoir qui c'est et sans même se poser la question finalement.
Marie-Lou ?
Alors sur les statues, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurai un avis super pertinent, mais moi je suis assez outrée de ne pas connaître cette personne et qu'en fait, au-delà du fait que il a une statue, que son nom n'est jamais ressorti à l'école. Enfin, personnellement, je ne l'ai jamais entendu, ni même pendant mes études, et j'ai fait un peu d'histoire et d'histoire politique. Donc, ouais, je suis assez choquée de ça. Et après, oui, je pense que... Pareil, j'ai dû passer devant plusieurs fois et voilà, peut-être qu'il y aurait une meilleure valorisation à faire, mais en tout cas, ouais, je suis assez... Enfin, j'ai envie de creuser du coup la vie de cet homme.
Garance.
Bah oui, moi ça me voilà la question de l'effacement des noms de l'histoire. Moi c'est une question qui me touche et mais là c'est bien la preuve que même en ayant une statue, ça résout pas tout. Donc c'est pour ça que la radio existe.
Ouais, justement, vous le mentionnez, Jeanne Garance, vous n'êtes pas forcément touchée par ces statues-là qui sont dans notre espace public. Hugo, toi c'est quelque chose que tu regardes, qui t'impacte ou vraiment tu passes à côté quoi à chaque fois?
J'avoue, la question des statues, c'est une question qui m'interroge quand même depuis pas mal de temps. Je les regarde souvent d'un œil critique parce que justement, je ne sais pas qui sont ces personnes. Et moi, j'ai quand même été vachement touché par toutes les histoires de déboulonnage de statues qu'il y a eu, notamment avec Black Lives Matter, puisque les statues, elles ont un héritage, mais elles ont surtout un héritage qu'on connaît mal ou qu'on connaît douloureusement. Et je trouve ça dommage qu'on ait une statue du coup de Gaston Monnerville qui a l'air d'être vraiment un homme passionnant, qui a une histoire quand même belle de gauche qu'on le connaisse pas plus. Le roman national silencerait les personnes non blanches? Non, on est étonné carrément, je m'assois.
Violette, t'aimerais toi avoir plus d'informations sur ces monuments qui nous entourent dans l'espace public toi?
Ouais, moi ça me fait penser aussi à une autre statue qui est dans le 17e. Je crois que c'est une ancienne esclave, une femme, et qui est une statue hyper forte. Et en fait, c'est vraiment sur une place où personne ne passe. Enfin, il y a vraiment presque que des voitures. Et c'est pas du tout un espace piéton aménagé aussi pour que les personnes les voient. Donc j'ai l'impression que parfois on met un peu des statues pour se dire... C'est fait, on a rendu hommage, écoutez, nous on a fait notre taf, mais en fait si personne les voit, tant pis. Après j'ai vu qu'il y avait une vidéo brute qui avait été faite récemment dessus, donc je me dis que voilà, peut-être qu'il y a des voix qui commencent un peu à en parler aussi et que ça va plutôt dans le bon sens.
Ça fonctionne aussi pour les noms de rues. J'ai appris qu'il y avait une rue Françoise d'Aubonne qui avait été nommée, très très cool Françoise d'Aubonne. Renseignez-vous aussi.
Merci beaucoup pour vos réponses. On vient de parler du buste de Gaston Monnerville à découvrir station Luxembourg sur leur RER B, Notre-Dame-des-Champs sur la ligne 12 du métro. Merci à tous.
C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Et si nous parlions ensemble d'énigmes? Oui, une énigme à résoudre posée par un sphinx. Sphinx, le titre du livre d'Anna Garetta, initialement publié en 1986, et republié chez Gallimard le 5 juin dernier. Et Garance, tu nous recommandes ce livre. Dis-nous en plus.
Oui, le livre d'Anna Garetta dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui s'appelle Sphinx. Il est publié pour la première fois en 1986, comme tu l'as dit Fabrice, alors qu'elle n'a que 23 ans. Et c'est à l'occasion de sa reparution en juin 2025 dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard que j'ai découvert ce texte qui raconte donc une passion amoureuse sur fond de boîte de nuit entre Paris et New York. Avant de le lire, je l'ai d'abord écouté la semaine dernière à la Maison de la Poésie grâce à la lecture magistrale de Jean-René Lemoyne, qui est un metteur en scène haïtien, accompagné sur scène d'une Anna Garetta DJ, donc ce qui vaut vraiment le détour, et elle a aujourd'hui 63 ans.
Mais pourquoi rééditer un texte écrit il y a 40 ans ?
Pour répondre à cette question, il faut revenir sur le projet de Margot Gallimard qui reprend en 2021 la collection Imaginaire, consacrée aux rééditions et notamment à l'occasion de la réédition de Ravage de Violette Le Duc qui avait été censurée par Gallimard en 1954 parce qu'une histoire d'amour lesbienne et un avortement dans un même livre, ça fait quand même beaucoup. Donc Margot Gallimard fait souffler un vent nouveau au sein de la maison Gallimard par son ambition de rééditer et de traduire des autrices féministes et lesbiennes oubliées de l'histoire.
Bravo les lesbiennes.
Elle a notamment publié Nouvelles pensées de l'Amazone de Nathalie Clifford Barney, qui réunissait chez elle donc le gratin lesbien de l'époque, et Voyage sans fin de Monique Wittig qu'on ne présente plus. Margot Gallimard se souvient par exemple combien à 20 ans elle avait eu du mal à trouver l'ouvrage en question de Clifford Barney en cherchant désespérément chez les bouquinistes et sur les sites d'occasion.
Donc ces rééditions répondent avant tout à un déficit de transmission de notre histoire, de nos mémoires et donc de notre littérature. Et le principe de la collection, c'est que chaque texte réédité, considéré comme fait littéraire majeur, fait l'objet d'une préface par des personnalités féministes du monde intellectuel et artistique. Et en l'occurrence, c'est Anne Garetta elle-même qui écrit une préface inédite de son premier livre 40 ans après.
Et quel était le projet de Sphinx ?
Alors en 1986, Anne Garetta est normalienne le jour et DJ la nuit. Et elle se débat avec les normes de la machine sociale qui gouverne les conduites, les identités et les désirs. Et donc Sphinx est le lieu d'une expérimentation littéraire avec une question. Quelle histoire serait possible entre deux personnages dont l'assignation de genre serait tenue en suspens ? Donc l'écrivaine qui a rejoint l'Oulipo, donc l'ouvreur de littérature potentielle, écrit sous une contrainte productive avec et contre Lambarde qui disait que la langue est fasciste. Donc elle utilise les potentialités de la littérature pour retourner la langue contre elle-même. Et donc la contrainte est la suivante, il s'agit de contourner toutes les marques linguistiques qui permettraient d'assigner au personnage un genre. Elle dit dans sa préface, écrire en français un roman qui fasse l'économie du marquage de genre des corps en présence, m'obliger à repérer dans la langue les points d'application, les lieux d'inscription de ce système, il me fallait établir une cartographie du territoire de la langue. Et une fois localisé, il lui suffit d'emprunter des détours stratégiques dans la langue, comme par exemple l'usage d'adjectifs épicènes comme triste, tendre, adorable. Mais on sait au moins depuis Butler que la performance de genre est aussi affaire de gestes, d'attitudes, d'assignations, de répertoires d'action. La contrainte était donc double. Il s'agissait de brouiller l'horizon d'attente des lecteurs, non seulement au niveau grammatical, mais aussi au sein du discours dans la description des personnages et de leurs actions. Mais cette absence d'assignation de genre passe complètement inaperçue au moment de la réception du roman par la presse. Le Figaro magazine y voit un narrateur masculin, jeune théologien épris d'une danseuse. Paris Match y projette une jeune femme et un danseur noir. Le Canard enchaîné, une jeune théologienne et une superbe danseuse noire. Donc si les genres sont indiscernables et indécidables, les lectrices se découvrent pourtant le besoin de projeter un genre au personnage. Et je constate à mon tour que j'y projette non seulement l'histoire que j'ai envie d'y voir, mais dans le même temps je n'arrive pas à dépasser, même en imagination, l'assignation d'un genre au personnage, alors même qu'on me le permet, ce qui montre bien que ces enjeux sont encore éminemment actuels. Mais quelque chose est passé à la trappe de la réception française des années 90 et il faudra attendre 30 ans plus tard, une traduction américaine et un lectorat sensible à l'effet politique des classifications raciales pour que soit explorée une seconde dimension du livre passé sous silence, l'identification raciale omniprésente. Tout dans le discours qui entoure les personnages est un rappel constant de leurs différences raciales et ça jusqu'au racisme qui colore le jeu, J.E., et la race donc imprime les corps par le discours, et c'était là le projet initial d'Anne Garetta, montrer les opérations discursives qui accomplissent le marquage des corps et qui instituent sexe et race en catégories régulatrices de nos comportements et de nos identités, et donc permettre à la lectrice, au lecteur, le temps d'un roman, de se désengager de cette machine à assigner et discriminer, permettre une autre perception des corps et imaginer ce qu'ils peuvent devenir. Et au-delà du geste expérimental et politique de Sphinx, on trouve dans ce roman à la langue puissante et incisive une description précise, quasi électrique, d'une passion amoureuse entre deux individus, de son énigme aussi, du milieu de la nuit des années 80, le sublime comme le sordide, la célébration des corps dansants, désirant jusqu'à l'épuisement, le deuil et l'élan vital de l'écriture qui vient combler les blancs de la mémoire et mythifier l'absence.
229 pages du premier roman d'Anne Garetta, publié initialement chez Grasset et à redécouvrir chez Gallimard. Merci Garance. Au niveau des réactions, que vous inspire ce livre les uns les autres autour de la table, Hugo ?
Bah, j'avoue, je n'avais jamais entendu parler de ce livre et moi tu m'as donné vraiment énormément envie de le lire. La question de la langue, c'est une question qui, à titre personnel, m'intéresse beaucoup. Je pense, par exemple, aux linguistes atterrés ou à toutes les questions autour de la masculinisation du langage, en fait. Mmh. Aux questions le masculin neutre, en fait. En quoi le masculin pourquoi le masculin serait la position de base ? Pourquoi on ne peut pas dire « elle pleut elle pleut sur la mer », par exemple ? Ou toutes ces questions-là, il y a aussi... je pense que la langue est politique et toute l'utilisation qu'elle essaye d'en faire, que ce soit au niveau du genre ou au niveau de la race sociale, du coup, franchement, ça me donne vraiment envie de le lire. Là, pour l'été, ça peut être un beau projet, surtout dans la période où il y a, j'ai l'impression, un renouveau des discussions autour de la langue et autour aussi du fait de nommer les choses. Par exemple, il y avait un débat récemment sur faut-il... renommer le français pour le désencastrer de la France, étant donné que la francophonie est diverse, quoi.
Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise le langage qui nous contrôle pour le retourner contre lui-même. Et donc, elle fait disparaître ce qui est justement un marqueur.
Ouais, bah voilà, c'est pour ça. Moi, je trouve ça exceptionnel. À titre personnel, je me considère comme anard du langage. Je suis pour l'abolition de toute norme langagière.
Jeanne, je crois que je t'ai entendu réagir.
Qu'est-ce que je voulais dire ? Si, ça va me revenir. Oui, je trouvais ça m'a fait sourire dans ta chronique, le moment où les critiques littéraires de ces grands journaux un petit peu institutionnels comme ça n'ont pas compris le principe du livre et ont vu des choses très différentes à partir de la même base de langage. Donc, pareil, ça m'a donné très envie de pouvoir voir moi-même ce que j'y projetterais et ce que ça dirait de moi aussi.
Violette ?
Moi, je suis assez étonnée par l'aspect super novateur, parce qu'elle a écrit ça quand même il y a assez longtemps. Et je trouve que c'est important, du coup, de redonner une place à ces livres qui posaient des questions qui, peut-être à l'époque, étaient quand même moins. Dont on parlait moins dans le débat public.
Pas du tout, même.
Ouais. Pas du tout. Et du coup, je trouve ça super qu'ils le ressortent, en fait, qu'ils redonnent aussi une juste valeur à ce qui a été écrit et qui était vraiment hyper novateur pour moi.
Marie-Lou.
Effectivement, je rejoins aussi Jeanne sur les réactions des médias et autant Le Figaro, je suis pas très surprise. Paris Match un petit peu quand on sait à qui ça appartient maintenant. Mais moi, alors autant sur la musique, je suis un peu puriste, autant sur l'écriture, je trouve que c'est vraiment un lieu d'exploration sans fin. Et là, en plus, ça a l'air d'allier et la forme qui est super intéressante et puis en plus l'Oulipo qui est quand même un peu le laboratoire de la langue. Moi, je trouve qu'ils font toujours des trucs déments et en plus l'histoire en elle-même, parce que justement parfois la forme peut prendre le pas sur le fond, et là ça n'a pas l'air d'être le cas, donc vraiment je pense que je vais le prendre avec moi en vacances.
Marie-Lou, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'Oulipo ?
Eh bien c'est une sorte de... Alors,
c'est l'ouvroir de littérature potentielle.
Et qu'est-ce que ça veut dire en fait ?
C'est un... Tu veux
que... Non, vas-y, okay. Vas-y, je pense que toi...
c'est un groupe d'écrivains, par exemple le lipogramme de Pérec, la disparition. Il a écrit tout un livre sans la lettre E. Et pareil, les critiques n'ont pas remarqué. Du coup, c'est écrire à partir de contraintes. Ouais. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça devient aussi du coup, des contraintes politiques. Là où c'est plus des contraintes vraiment formelles, mais qui deviennent performatives et qui créent quelque chose dans la forme et dans le sens de la littérature qui est produite.
Ryan ?
Moi, je trouve ça. Je me pose une question. Je me dis donc cette autrice qui a cherché à construire quelque chose d'abstrait pour qu'on n'y voit pas de genre, etc. Je me dis quand nous ensuite on projette nous-mêmes quelque chose, qu'on va forcément projeter quelque chose. Et la preuve avec les interprétations très différentes des rédactions. Est-ce que on fait honneur à l'œuvre ou est-ce que on remet du genre, des dynamiques d'oppression, etc. Je me demande en fait est-ce qu'on est obligé de projeter quelque chose ? Comment on peut réagir face à une œuvre comme ça ? Et puis aussi, je me suis toujours demandé pourquoi la langue était aussi un sujet aussi explosif. Moi, je me souviens de la réforme orthographique, un peu ce sujet, il y avait beaucoup de fake news où les débats étaient explosifs. Et puis aussi l'écriture inclusive. Pourquoi c'est aussi explosif alors que dans un formulaire, quand on enlève juste le point médian et que c'est des parenthèses autour du E, bah, personne ne s'énerve. Pourquoi le langage nous rend fous ?
C'est énormément de questions qui sont particulièrement intéressantes qu'on va pas pouvoir
beaucoup
creuser,
de questions, peu de réponses.
Après, on a chacun nos réponses personnelles et après, c'est le débat qui, je crois, va apporter des réponses ou pas du tout. Merci pour vos réactions. Garance nous a plongé dans les lignes du premier roman d'Anne Garetta, 229 pages où je raconte son amour pour A. Sphinx d'Anne Garetta, un roman republié aux éditions Gallimard le 5 juin dernier et disponible en librairie dans les bibliothèques.
Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
Sculpture,
littérature,
musique. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Nous sommes déjà à la dernière partie de notre émission et nous terminons avec un classique. Si je vous dis fin des années 90, États-Unis, quatre sœurs et un drame, Violette répond Virgin Suicide, c'est la rubrique cinéma.
<t'->
Imaginez-vous, sous un ciel étoilé, allongé sur un transat, une brise qui vous rafraîchit. Autour de vous, les magnifiques bâtiments qui entourent la cour carrée du Louvre. C'est l'expérience que le Louvre et MK2 nous ont proposé de vivre lors du festival Paradiso, un festival à ciel ouvert qui nous permet de revivre les classiques du cinéma, mais aussi d'en découvrir quelques nouveautés. Cette musique, les plus cinéphiles d'entre vous l'auront probablement reconnue, il s'agit de Playground Love du groupe R, musique si emblématique du film Virgin Suicide. Car Virgin Suicide, de la réalisatrice américaine Sofia Coppola, c'est d'abord une ambiance que l'on doit en grande partie à cette incroyable bande-son. Et cette ambiance, à l'image de ce film, elle est étouffante. Lorsque le générique de fin apparaît, tu prends une grande bouffée d'air, comme si tu n'avais pas respiré depuis 2 heures. Rapidement, le film Virgin Suicide, sorti en 1999, c'est l'histoire de 5 sœurs qui vivent aux États-Unis dans les années 70. Et ces 5 sœurs blondes, mystérieuses, à la beauté simple, elles fascinent les garçons de leur âge. Seulement voilà, elles vivent dans un environnement catholique strict, étouffé par des parents surprotecteurs. Lorsque la plus jeune d'entre elles fait une tentative de suicide, et je ne vous spoile rien, ce sont littéralement les 2 premières minutes du film, la vie de cette sororie bascule. Leur maison se transforme petit à petit en prison, donnant une impression d'étouffement au fur et à mesure que ces filles sont privées de liberté par leurs parents. Mais cette prison, elle leur permet aussi de renforcer leurs liens, de soutenir. Car Virgin Suicide, c'est avant tout l'histoire de la vie de 5 adolescentes. Leurs premières amours, leur journal intime, leur premier bal du lycée. Ce quotidien, qui peut nous paraître plutôt banal, il est raconté du point de vue de ces garçons, complètement obnubilés par elle. Dans ce film, ce que Sofia Coppola nous montre, c'est le mystère qui gravite autour des filles, ces créatures si complexes et incompréhensibles aux yeux des garçons. À un moment du film, ce groupe de garçons vole le sésame, tient entre ses mains le journal intime de la plus jeune d'entre elles. Ils tentent de le décrypter en analysant le placement des points sur les i. Elle est pensive, désorganisée, rêveuse. Ils ont l'impression d'être des génies, de l'avoir enfin percée à jour. Mais au lieu de s'en assurer en apprenant effectivement à les connaître, ils restent bloqués dans cet imaginaire qu'ils ont créé. Alors qu'ils sont aussi fascinés par ces filles, par leur monde, ils ne leur parlent que très peu, comme si cela représentait un pas insurmontable vers elles. Dans Virgin Suicide, des gros plans sur les filles, sur leur bouche, sur leur regard, un mouvement de cheveux, montrent la manière dont elles peuvent être perçues comme des objets. Et ce film nous montre aussi les ravages que peut faire une éducation stricte et privée de toute fantaisie, donnée par une mère à moitié fanatique et un père absent. Je ne veux pas vous en dire trop sur ce chef-d'œuvre plein de mélancolie et de poésie, malgré ce sujet si pesant. En tout cas, il est merveilleusement réalisé, notamment grâce à l'utilisation de ces gros plans dont je vous parlais, mais aussi des contrastes de plans et de couleurs qui participent de cette esthétique mélancolique. Sofia Coppola a une manière de donner à voir un coup de foudre, par exemple, avec sa caméra, qui donnerait envie à n'importe qui d'avoir 15 ans une dernière fois pour en vivre un. Lorsque j'ai revu ce film dans cette cour du Louvre, j'ai réalisé à quel point le film turc Mustang de Deniz Gamsö s'en était inspiré. Là aussi, 5 sœurs, plus unies que jamais, ne demandent qu'à vivre. Elles testent des choses, elles veulent s'émanciper, elles connaissent leurs premiers amours. Mais être une jeune femme dans les milieux traditionnels ruraux en Turquie rime plutôt avec mariage forcé et soumission au patriarcat. Leur maison à elles aussi se transforme petit à petit en prison. Donc voilà, ces 2 films, ils nous rappellent qu'être une jeune femme dans un environnement traditionnel, c'est être enfermée, tant mentalement que physiquement. Ce sont le genre de films qui laissent une trace indélébile, qui font réfléchir, qui nous rappellent qu'il y a encore tant de chemin à parcourir pour que l'image des femmes change. Si vous avez envie de vous faire secouer un peu, de pleurer beaucoup, Virgin Suicide est disponible sur Netflix, et même 25 ans plus tard, il ne l'a pas vieilli d'un poil. Pour Mustang, malheureusement, il faudra payer Canal plus VOD, mais ça vaut vraiment le coup, je vous le promets.
Un film culte, passé à la volée au Paradiso en début d'été, de quoi se replonger dans l'univers porté par Sofia Coppola. Merci Violette pour cette chronique plutôt dense. Je vais juste prendre vos réactions à chaud. Ryan.
Déjà, quelle magnifique manière de parler d'un film. Moi, j'ai déjà très envie de le voir, je ne l'ai jamais vu. Mais j'aime beaucoup les films des années 90 qui, je trouve, ont une fraîcheur vraiment caractéristique. Et en plus, alors oui, il est dispo sur Netflix, mais j'ai tellement envie de le voir au Louvre aussi, honnêtement. Je trouve que le cinéma en plein air, c'est une invention super. Je ne sais pas qui a inventé ça. C'est génial. Et en plus, à Paris, qui est du coup une très belle salle de cinéma, j'imagine. Donc, moi, je suis totalement convaincue.
Jeanne.
Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça n'a pas de rapport direct avec le film, mais partout à Paris, il y a des espaces pour voir des films en plein air tout l'été. Enfin, il y a plein de petits festivals, des petits coins de rue où les gens ou des assos installent des écrans et des transats et tout. Enfin, il faut chercher parce qu'il y a vraiment plein de choses à découvrir.
Le Virgin Suicide, on en pense quoi, Marie-Lou ? Est-ce que tu l'as vu déjà ?
Oui, moi je l'ai vu. Moi je suis un petit peu plus âgée, je pense, que la plupart d'entre vous. Donc je ne l'ai pas vu au cinéma quand il est sorti, mais mon frère avait acheté la cassette VHS à l'époque. Donc je l'ai vu sur notre vieille télé cathodique. et je me souviens que la première fois que je l'ai vu, je n'avais pas trop compris le film parce que j'avais 9 ans. Mais après, j'ai grandi, je l'ai revu parce qu'en fait, dès le départ, même si je n'avais pas tout compris, alors déjà la BO, je l'ai poncée là depuis ces 20 dernières années, je l'écoute encore. Et puis il y avait vraiment ce que tu racontes, c'est très vrai, l'esthétique du film fait que ça marque quoi qu'il arrive, et je l'ai revu et je le reverrai encore du coup avec plaisir.
Hugo,
Est-ce qu'on aime l'autre ou est-ce qu'on aime l'image de l'autre? Une chose est sûre, on parle beaucoup d'images et j'ai envie de les voir, ces images. Merci pour ta chronique,
Garance.
Oui, moi aussi la BO, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que là, le parallèle avec Mustang, je trouve, est très bien choisi. Mais je me rends compte qu'en fait, de ce film, il me reste surtout des images. Et en fait, il y a vraiment ce contraste entre la dureté de ce qui se passe et la douceur des plans, des gros plans dont tu parlais. Et cette playground qui est quand même quelque chose de très aérien.
On voit beaucoup de films cultes ressortir au cinéma pour une expérience un peu unique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire de découvrir ou redécouvrir des classiques sur un grand écran, Ryan ?
Oui, totalement, parce que je trouve que l'expérience n'est vraiment, vraiment pas la même d'être chez soi sur Netflix, d'interrompre, de regarder le film en 4 fois, comme je le fais parfois, et d'être dans une salle de ciné, quoi. Et donc de pouvoir vivre ce qu'ont vécu les gens 30 ans avant, je trouve que ça vaut vachement le coup, ouais.
Garance ?
Ah oui, mais à chaque fois que je veux aller au cinéma en plein air, notamment même pour le festival dont tu parlais, Garodoc, moi j'ai jamais de place. Ou alors je suis pas là.
Non, ça a pris d'assaut.
Violette.
Moi je trouve que je sais que j'ai un peu de mal parfois avec les films qui sont sortis il y a longtemps, parce que je vais toujours privilégier un film plus récent, je sais pas pourquoi, j'ai un peu un biais je pense, et du coup c'est vrai que le fait de le voir au ciné, ça peut motiver à revoir des classiques qui vont pas forcément me tenter chez moi sur un écran, parce que je trouve que l'image parfois peut me déranger et ne pas me donner envie de le voir. Du coup je trouve que ça donne envie en fait de se lancer, de se dire ok, si c'est au ciné, j'y vais en fait, je me lance et je revois mes classique.
Bah, ça donne une vraie dimension expérientielle et donc du coup je pense qu'on en ressort touché différemment. Pourquoi selon vous ce film il est encore d'actualité, Marie-Lou ?
Parce que je pense qu'elle a bien choisi l'équipe avec laquelle elle a travaillé, Sofia Coppola. Je pense que elle a, en fait il y avait déjà une modernité, le film vraiment quand il est sorti on sentait qu'il y avait un peu pas un avant et un après, mais en tout cas on sentait que c'était un film vraiment différent, encore une fois, dans la manière dont c'est filmé, ce que tu disais Garance, le contraste entre le sujet qui est quand même très lourd et la légèreté un peu apparente, la BO encore une fois, Kirsten Dunst, alors certes qui est un peu moins présente dans les écrans aujourd'hui, mais qui a quand même pas mal fasciné, donc je pense qu'il y avait quelque chose déjà de très moderne et du coup ça marche encore aujourd'hui je pense.
Merci beaucoup pour vos réponses. Pour rappel, on vient de parler du film Virgin Suicide. Il est disponible, comme l'a dit Violette, sur les plateformes Netflix. Et pour les curieux et curieux qui voudraient se replonger dedans, je vous invite à le faire.
C'est dans l'art, c'est déjà fini pour ce soir et j'ai eu un plaisir de passer l'heure avec vous. Eléa à la technique, Garant, Jeanne, Hugo, Marie-Lou, Violette et Ryan aux chroniques et aux réactions. Eléa à l'animation, merci à vous tous.
Merci.
Le programme de la soirée se poursuit sur Radio Campus Paris. En attendant, retrouvez-nous sur radiocampusparis.org pour nous réécouter ou sur Instagram, c'est dans l'art RCP, tout attaché. À chaque émission, un post avec tout ce dont on a parlé. Rendez-vous à la prochaine émission dans 4 semaines pour toujours plus d'art. Portez-vous bien d'ici là, attention à la chaleur et vive l'art sous toutes ses formes.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.